I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, bienvenue sur le comptoir de la psychologie. Je vous retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de l'épisode de la semaine dernière. Donc où j'aborde la question des obsessions, des TOC, de la névrose obsessionnelle, un petit peu tout le champ qui va autour. Merci à Rebecca pour son avis sur iTunes qui me dit « Merci pour ce podcast, humble et de partage, le ton, le fond sont au bon endroit. » Merci à tous à chaque fois de me laisser des avis que je lis tout le temps, de me mettre 5 étoiles pour encourager mon travail, de m'envoyer des messages, de me suivre sur Instagram. Ça me fait super plaisir. Alors, dans la continuité de l'épisode de la semaine dernière, on va voir un petit peu plus l'apport aussi de Freud, peut-être encore plus développer cette question de la névrose obsessionnelle ou la névrose de contrainte, cette folie du doute. C'est dans Inhibition, symptômes et angoisse que Freud développe le plus la névrose obsessionnelle. Enfin, il fait le plus, je trouve, le bilan de sa pensée sur cette névrose. Je vous l'avais dit la semaine dernière, en fait, à partir du moment où on parle de névrose obsessionnelle, on donne une orientation psychanalytique à notre propos. Et Freud, il a amené cette question de la névrose obsessionnelle dans une catégorie où il regroupe, lui aussi, les obsessions et les compulsions, donc comme je l'ai fait la semaine dernière. Alors pour Freud, au départ, comme pour l'hystérie, il se dit que la névrose obsessionnelle, c'est une forme de défense contre des désirs trop intenses, impensables. Il y a un conflit entre le désir oedipien, par exemple, et l'interdit. L'hystérie, pour se défendre de ce conflit, va plutôt miser sur le côté affectif, en avant. Donc toute la marge autour de la séduction, du lien à l'autre, ne pas penser. L'obsessionnel, au contraire, mise tout sur la pensée, sur la surintellectualisation et l'interdit des affects, du ressenti. C'est éteint pour seulement être dans la boucle de la pensée. Freud y va aussi faire un rapprochement de la névrose obsessionnelle comme une régression au stade sadique-anal. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les stades de Freud. Les termes sont souvent un petit peu brûlants. C'est vrai que c'est un petit peu difficile à aborder sans que tout le monde tombe dans les pommes. Mais en réalité, c'est très éclairant de réfléchir aussi dessus. Le stade anal, c'est un stade, en fait, chez l'enfant, où il y a quelque chose qui est assez figé sur la rétention, sur l'économie, sur l'ordre. Ça va avec le développement de la propreté. Il y a beaucoup l'idée de retenir, de garder en soi. Et justement, chez l'enfant, dans cette période, il va jouer avec la propreté, la difficulté d'aller aux toilettes parfois. D'ailleurs, de laisser partir son œuvre aussi, où est-ce qu'elle va? Qu'est-ce que j'ai laissé dans les toilettes? Ou alors, il peut être très en difficulté, au contraire, avec la saleté. S'ils ont du feutre sur le doigt, c'est vraiment un drame. Ou au contraire, d'un coup, ils se colorient le corps entier. Donc ce stade anal chez l'enfant, c'est un moment assez rigide qui peut perdurer chez certaines personnes. C'est pour ça qu'on dit que l'obsessionnel est plutôt resté, ou en tout cas garde ce caractère plus anal. Avec aussi cette lutte entre l'amour et la haine, le fait de donner, de retenir, le fait de recevoir, qui va être particulièrement singulier, notamment chez Freud. Donc l'enfant, voilà, peut vivre dans son développement des temps plus obsessionnels, ce qui est normal. Si vous êtes entouré d'enfants, si vous avez des enfants, vous voyez peut-être de quoi je parle. Donc une période du développement où l'enfant il a besoin de que les choses soient très bien rangées, qu'on dise les mots dans tel ordre. Il lui faut des rituels pour un petit peu contenir aussi les angoisses qu'il peut y avoir dans certaines tranches d'âge. Donc c'est pas inquiétant. Ça va d'ailleurs souvent disparaître pour laisser place à de nouvelles choses. Et puis dans la névrose obsessionnelle, il y a quelque chose de figé. qui reste ou qui revient à l'âge adulte. Parce qu'en psychanalyse, quand la névrose obsessionnelle est pensée, ce qui n'est pas évident à penser, quelque chose qui essaye de tuer la pensée aussi, il y a une réflexion autour de l'agressivité qui est contenue, donc quelque chose qui se répète, qui cherche à se canaliser par des rituels, des besoins de contrôle, de maîtrise. À côté de ça, il peut y avoir aussi un excès de gentillesse, tellement gentil que ça en devient particulier, mais tellement gentil parce que le risque de l'agressivité est trop proche. L'agressivité, pas nécessairement au sens de la violence, mais l'agressivité au sens aussi de la colère, du désaccord, qui est nécessaire chez chaque personne, mais très difficile pour quelqu'un qui a des conduites plus obsessionnelles. Le fait d'être en désaccord, de ne pas être dans le même sens que l'autre, va provoquer un conflit trop important, une culpabilité trop lourde. Donc autant être trop gentil, même si c'est inconscient. Et puis quand on est obsessionnel aussi, on retrouve, comme je l'ai développé, cette toute-puissance de la pensée. C'est-à-dire que penser est agir. Penser crée quelque chose. Il suffit de penser pour que cela agisse. Donc il va y avoir d'autant plus de signification accordée aux mots, de contrôle sur comment les choses sont dites, à quel moment. Le langage a un pouvoir absolu. Également, il y a vraiment ce doute perpétuel, une difficulté à se positionner. Parce que ça vient dire aussi de la difficulté à se rassurer, à se protéger. C'est pour ça que les compulsions, elles vont venir border tout ça. Abaisser sur le moment, c'est jamais définitif, mais vu qu'il y a des grandes souffrances avec l'incertitude, on certifie l'acte d'une certaine façon, on maîtrise, on range la pensée. Alors oui, je voulais vous parler d'une étude de cas de Freud. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de l'homme au rat. J'avais envie d'illustrer un petit peu, dites-moi ce que vous en pensez, si vous appréciez aussi une étude de cas qu'on peut retrouver dans la littérature. Et donc Freud, il a écrit sur Ernest Lanzer. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais on va dire Ernest. C'est un patient qu'a rencontré Freud parce qu'en fait, il souffre de pensées obsédantes, d'idées un petit peu loufoques. Par exemple, il sent qu'on pourrait connaître ses pensées. Il a des symptômes qui sont assez invalidants depuis qu'il est tout petit. Il a 29 ans quand il rencontre Freud. Il a du mal à finir ses études de droit. Il a du mal à s'engager puisqu'il a peur de faire du mal à la femme qu'il aime dès qu'elle n'est pas avec lui. Il a rencontré cette femme il y a quelque temps, avec qui donc il a commencé une relation. Il commence à avoir une activité sexuelle à partir de 26 ans. Et il explique qu'il n'a pas non plus une vie sexuelle très satisfaisante, du moins pas très riche. Il a très peur de blesser mortellement cette femme, son père aussi. Mais il a peur de se blesser lui aussi, par exemple il a peur de se trancher la gorge quand il se rase. Donc au départ, pourquoi il vient voir Freud? Enfin, en tout cas, qu'est-ce qu'il lui raconte? Au début, il y a deux événements qui l'ont marqué. Deux événements qui se sont passés pendant son service militaire obligatoire. Premièrement, il perd son pince-nez et demande donc à son opticien par courrier de lui en refaire un. Voilà, j'y reviendrai dessus. Et puis après, il parle d'une rencontre avec le capitaine, un capitaine cruel. Ce capitaine, il lui a raconté une histoire assez horrible. Il lui explique qu'il lui parle d'une histoire de torture où en fait le condamné est attaché. On renverse sur ses fesses un pot et on introduit des rats qui s'y enfoncent. Et Freud, il ajoute dans l'anus, ce que visiblement Ernest avait du mal à le dire. Donc vous voyez un supplice assez terrible. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Freud écrit que pendant ce récit-là, lorsque Ernest, donc l'homme au rat, raconte cette histoire, Freud voit une expression assez complexe sur son visage. Il dira que le patient montre sur son visage l'horreur d'un plaisir qu'il ignore, de son plaisir inconnu. Je crois qu'il dit même l'horreur d'une jouissance ignorée. Ça dépend des traductions. Et donc qu'est-ce que c'est que cette horreur d'une jouissance ignorée? C'est une jouissance dont il n'a pas conscience. Le plaisir d'un côté, pour une instance par exemple, comme un plaisir sadomasochiste, peut être un déplaisir de l'autre côté pour une autre instance. Et Ernest, il explique qu'il a très peur que ce supplice-là arrive à quelqu'un qui lui est cher. notamment cette femme ou son père. Et quand il raconte ce supplice, il revient après sur l'histoire du pince-nez, et il explique que pour ne pas reproduire ce supplice, il faut qu'il réalise quelque chose. Et en fait, ce qui se passe, c'est quand il va recevoir son pince-nez, donc le capitaine lui amène le colis, lui dit « Bon, par contre, il faut que tu rembourses le lieutenant qui a fait l'avance. » Et là, Ernest, donc l'homme aura, se dit que s'il ne rend pas l'argent, il n'arrivera pas malheur à ses proches. Mais s'il rend l'argent à ce lieutenant, la torture des rats va se faire sur un de ses proches. Et quand il explique ça, ça le choque tellement, cette pensée, qui est totalement absurde en même temps, cette obligation de rendre l'argent, que dans la séance, il appelle Freud « mon capitaine ». Donc on voit vraiment ces mécanismes de la pensée magique, toute puissante, qui viendraient engendrer une action, une conséquence. Penser est égal agir. Puis après, donc il continue aussi, au fur et à mesure des séances, à associer. Il explique aussi des souvenirs d'enfance, notamment vers 4-5 ans, où il est très proche de la gouvernante qui s'occupe de lui, et elle le laisse regarder un petit peu ce qu'il y a sous sa jupe. Il l'observe rentrer dans son bain, ils dorment ensemble, il explique à Freud qu'il apprécie être dans son lit, il apprécie être proche d'elle, il apprécie la toucher. Et puis après, vers 6 ans, il sentait qu'il commençait à avoir des érections. Il ne pouvait pas en dire ce que c'était à ce moment-là, mais il a choisi d'aller en parler à sa mère, avec grande inquiétude, parce qu'en fait, il pensait que ses parents pouvaient lire dans ses pensées. Vous imaginez l'angoisse. Donc en fait, il est très pris dans des premiers désirs d'enfant, de curiosité. Il avait envie de voir les femmes nues, notamment les domestiques. Mais il était très angoissé de ces pensées-là. Il craignait que ces pensées provoquent la mort de son père. Du moins, il fallait qu'il empêche la mort de son père. Donc il essayait d'annuler ses pensées, de ne pas les faire exister. Parce que s'il a envie de voir une femme nue, son père risque de mourir. D'ailleurs, une autre pensée qu'il raconte, c'est que quand il était enfant, il se disait que s'il arrivait malheur à un de ses proches, notamment de son père, une petite fille pourrait se prendre d'affection pour lui. C'était une petite fille qu'il aimait beaucoup. Il se dit que, tiens, si mon père mourait, peut-être que, d'une certaine manière, elle pourrait me donner de l'intérêt, de l'affection. Et Freud, il lui dit, bah, peut-être qu'il aurait pu souhaiter la mort de son père. Bien entendu, l'homme aura s'en défend, mais il raconte un autre souvenir. Quelques mois avant la mort de son père, puisque son père est mort quand il avait 21 ans, il avait pensé que si son père mourait, il deviendrait assez riche pour épouser la femme qu'il aime. Donc voilà, il a cette pensée de se dire, tiens, si mon père meurt, peut-être qu'au moins je toucherai suffisamment d'argent pour demander en mariage la femme que j'aime. Et cette idée, ça le met tellement en difficulté, il repousse cette image en amenant une nouvelle pensée. Il espère que si son père meurt, que son père ne va lui laisser aucun héritage. Donc une pensée et une contre-pensée qui vient annuler la première. Son père était une des personnes qu'il aimait le plus au monde, donc il raconte cela en disant qu'il est assez surpris d'avoir eu cette pensée. Et Freud va lui dire, et interprète à ce moment-là, en lui disant que cet amour si intense est la condition pour refouler la haine. Et concernant la mort de son père, on pourrait aussi se dire que l'idée, c'est de faire un travail autour de l'ambivalence. On peut aimer, on peut détester, on peut désirer, on peut craindre. Donc c'est un cas qui est vraiment très intéressant chez Freud. Enfin, tous les cas de Freud, je trouve que c'est très intéressant, donc c'est toujours très questionnant aussi parce que c'est raconté sous le regard de Freud. Donc c'est toujours une autre réalité. Mais je vous conseille d'aller lire l'homme aura. D'ailleurs, pourquoi l'homme aura? C'est une condensation de plusieurs symboles. Donc il y a ce supplice qu'il raconte, mais il y a aussi le rat qui attaque de l'intérieur pour punir, il y a une équivalence rat-argent, enfin, je vous laisse aller lire cette étude de cas, ainsi que le journal de Freud, puis même les analyses de cette étude, si vraiment vous êtes chaud et que vous en avez envie. En tout cas, on peut voir qu'il y a plusieurs façons de se défendre, qu'on peut utiliser plus ou moins des défenses obsessionnelles, c'est assez courant, donc aujourd'hui, on peut dire que ça peut évoluer, mais clairement ça me parle aussi. En traduisant ce cas et en le pensant aussi avec la clinique aujourd'hui. Dans la névrose obsessionnelle, il y a des mécanismes qui se fixent et qui peuvent être assez intenses. On peut voir notamment ce déplacement des émotions, des affects, c'est-à-dire au lieu de ressentir certaines représentations, certaines difficultés, certains ressentis, on projette sur des actes. Donc le déplacement, c'est on met l'accent sur autre chose, quelque chose de moins intense. Au lieu de penser à l'agressivité ressentie envers son père, par exemple, je me mets à compter ou à laver 6 fois la table dans un sens et 7 fois dans l'autre. On déplace quelque chose de fort sur une image, une représentation totalement anodine. Un autre mécanisme, ça peut être l'annulation. On dit même l'annulation rétroactive. Donc on fait ou on dit quelque chose et on annule. Je dis merde et après je dis merveilleux. On annule des pensées, des gestes, comme s'ils n'avaient pas existé. Comme s'ils n'avaient pas eu lieu, en donnant un nouveau mot ou un nouvel acte qui a une autre représentation. Dans l'isolation aussi, il y a l'idée d'exclure, de mettre de côté. Donc il se passe quelque chose, puis il y a un vide, un creux. Et il se passe autre chose qui n'a rien à voir. Il y a une pause qui vient séparer. Il y a ça d'un côté, puis ça de l'autre. En séance d'ailleurs, c'est souvent qu'on peut raconter quelque chose. Et puis après, on se dit, sinon au final, rien à voir, mais etc. Et en fait, justement, qu'est-ce qu'il y a à voir à ce moment-là? Qu'est-ce qui est en lien, mais qu'est-ce qui est à voir? Il y a aussi la formation réactionnelle qui est très courante dans l'obsessionnalité. Donc on inverse la pulsion. On fait un contre-investissement. Donc si on reprend l'agressivité du père par exemple, ou de quelqu'un d'autre, au lieu en fait d'être en colère, quand on le voit, on a son plus beau sourire. Et en plus on amène des madeleines qu'on a cuisinées, même ses préférées, tiens. Donc le conflit à ce moment-là, c'est cette haine refoulée. Ce qui a pu potentiellement exister chez l'homme aura. Et dans ces formations réactionnelles, on peut le percevoir aussi chez des personnes très obséquieuses, qui ont un petit peu les codes de la politesse assez exagérés. C'est-à-dire que toutes les règles sont parfaitement respectées, le dos est droit, on espère ne surtout pas déranger. On effectue quelque chose d'opposé au désir refoulé. On remplace une représentation par quelque chose de contraire, mais de plus conciliable. Encore une fois, on peut utiliser toutes ces défenses, hein. Je les utilise aussi. C'est pas « oulala, c'est un obsessionnel parce qu'il fait ci ou ça hein. ». D'ailleurs, qui n'a pas tenu la porte avec un grand sourire à son patron ou à son prof tyrannique, alors qu'il aura envie de lui claquer au nez? Parfois, on contre-investit quelque chose, on inverse la réaction pour que celle-ci soit possible. Ce qui est compliqué dans l'obsessionnalité, c'est ce côté permanent. Surtout qu'il y a un risque de ne pas le faire, un risque fictif, imagé. Un danger à être en colère ou moins agréable ou triste. Donc il y a toute cette haine refoulée dans la névrose obsessionnelle et qui fait souvent retour et qu'on va devoir contrôler, qu'on va devoir réduire. C'est un conflit entre le moi et le surmoi. Il y a les interdits, les demandes du surmoi et le moi qui essaye de s'en sortir coûte que coûte. Avec un surmoi souvent très sévère, avec beaucoup de culpabilité et d'autoreproche. Il peut même y avoir des craintes de passage à l'acte. Dans les pensées obsédantes, il y a des angoisses de passage à l'acte quand on vit de très grandes souffrances, comme on peut le supposer l'homme aura. Pour certains, donc ça peut aller assez loin, c'est-à-dire la peur de foncer dans un ravin quand il ou elle conduit, la peur de se faire mal. Comme je vous disais, l'homme aura il craignait de se trancher la gorge quand il se rasait. Du coup, il va y avoir plusieurs rituels qui vont être mis en place pour colmater ces angoisses. Ce qui est très présent, c'est cette notion de pensée magique. Donc par exemple, si je compte 8 fois jusqu'à 50, ou si à chaque fois que je mange, je dis merci entre chaque plat ou une bénédiction, il n'arrivera pas malheur à telle personne. Mais si je ne le fais pas, cette personne pourra avoir un accident. Donc si je ne rends pas l'argent au lieutenant, pour Ernest, mes proches n'auront pas à subir le supplice des rats. Et c'est très handicapant au quotidien, parce qu'il y a une immense pression, une charge mentale. La personne devient vraiment esclave des rituels. Et vous imaginez bien que s'il y a ces pensées qui sont présentes, qui poussent, c'est très difficile de s'en défaire, et donc de se dire « non, je vais arrêter de compter jusqu'à 50, mais à côté de ça, j'ai l'impression que ça peut mettre en danger une personne. » Et alors aujourd'hui, encore une fois, on pourrait se demander « est-ce que la névrose obsessionnelle est encore là ?» Est-ce qu'il y a encore des obsessionnels? Peut-être encore une fois que les névrosés de Freud ne sont plus là, en effet. Ou du moins, l'environnement bouge, les liens aussi, les névroses aussi. Pour autant, ça reste un des piliers de la pensée psychanalytique et surtout les mécanismes de la névrose obsessionnelle qui peuvent être encore assez courants et expliquer aussi pas mal de troubles. Et dans le DSM, donc le manuel qui se dit athéorique, vous savez que je critique toujours cette idée que c'est du athéorique, donc sans théorie, puisqu'à partir du moment où un humain l'écrit, il me semble que l'objectivité absolue est un petit peu un leurre, même si c'était un robot d'ailleurs, parce qu'il y a toujours quelqu'un derrière. En tout cas, dans ce DSM, dans ce manuel, qui fait un petit peu un état des pathologies avec des critères, etc., la névrose obsessionnelle n'existe plus, puisque c'est un terme psychanalytique, mais il y a une catégorie de troubles obsessionnels compulsifs. Donc ça voudrait dire qu'on n'est plus dans une pathologie, mais dans un symptôme, presque de façon isolée. La personnalité obsessionnelle est effacée pour laisser place uniquement au mécanisme du comportement. En sachant que le DSM, il s'oriente vers les statistiques, donc il utilise des recherches quantitatives, et se penche plutôt sur des analyses qui montrent que, par exemple, les personnes qui souffrent de TOC pourraient être orientées vers des TCC parce qu'il y a une réponse à hauteur de 50%. Donc le DSM s'oriente vers des statistiques, il utilise des recherches quantitatives, et donc se penche sur des analyses avec des chiffres. Et je trouve que c'est intéressant, parce que j'ai aucune connaissance particulière pour dire que cette hypothèse est vraie ou non. En réalité, on s'en fiche, mais la critique que je peux faire, par contre, c'est de faire parler les chiffres, en oublier des fois les personnes. Et c'est une critique, mais que je comprends tout à fait, au sens où c'est très séduisant, c'est très simplificateur et rassurant de faire parler les chiffres. Mais dans le DSM, ce qui relève du désir est annulé pour penser le symptôme. Ce qui est toujours compliqué quand on ne pense pas aux bénéfices inconscients de certaines pathologies. C'est-à-dire, malgré la grande souffrance, la honte, la culpabilité, la gêne des obsessions, elles viennent quand même dire quelque chose, satisfaire quelque chose en soi. On dit souvent que le mal d'une instance, donc du moi par exemple, vient satisfaire une autre instance, le surmoi par exemple. Donc il n'y a aucun plaisir en soi consciemment à avoir des tocs, ça c'est clair, mais il y a quelque chose inconsciemment qui se satisfait à être en boucle sur quelque chose. Le plus important, c'est comme j'ai pu le dire dans l'épisode précédent, c'est qu'au-delà de la véracité des démarches thérapeutiques, que ce soit TCC, psychothérapie analytique, etc., on se rend compte que pour toute pathologie, ce qui fonctionne et permet un rétablissement, c'est surtout la qualité du lien avec le ou la thérapeute. Donc que ce soit une méthode avec un médicament ou une thérapie, ça peut être de toute façon complémentaire, c'est-à-dire on peut penser l'hypothèse neuropsychiatrique et donc l'accompagnement par le médical, médicaments, interventions, comme j'ai parlé la semaine dernière, et penser à côté la dimension personnelle, subjective dans la rencontre avec un discours, une thérapie, en fonction en tout cas de la demande. Je pense aussi de mon côté qu'on peut avoir des traits obsessionnels, une personnalité qui flirte un peu avec ses expressions, sans pour autant être inscrit dans une pathologie. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec cela, certains disent que c'est quand même être dans une névrose obsessionnelle, sauf qu'il n'y aurait pas ou peu de manifestations symptomatiques, mais je trouve que cliniquement c'est assez régulier de trouver des personnes qui sont prises dans des doutes continuels, dans des ruminations, des fixations de pensée, avec une prédominance de la pensée parfois un peu magique et qui pour autant n'ont pas le caractère intensif de la névrose, c'est-à-dire qu'elles peuvent pour autant être bien avec les autres, au travail, dans une vie amoureuse, dans des projets, ainsi de suite. Puis également, il y a aussi des moments de vie où en fait on peut être obsessionnel. L'obsessionnalité, ça vient représenter aussi un moyen de lutter contre des angoisses, contre une tristesse, une colère sans que ça se fixe à long terme. Un petit peu comme les enfants, qui ont souvent un moment dans leur développement d'obsessionnalité normale. Ils veulent absolument qu'on dise les phrases comme ça. Ils rentrent dans des colères intenses si le jeu n'est pas bien rangé. Il faut que le bleu soit avec le bleu. Que dès que Nounours va se coucher, on doit dire bonne nuit à demain. Et tout le monde doit dire bonne nuit à Nounours. Ça fait aussi partie du développement. Donc on peut se dire que, également à l'âge adulte, c'est quelque chose qui peut traverser. Ou même qui peut rester en surface. Des traits obsessionnels. Et qui vont se manifester à certains moments de vie, puis d'autres non. Ça dépend ce qui vient faire sens, en tout cas pour soi. Voilà, j'espère en tout cas que cet épisode vous a plu. Il a été peut-être un petit peu long, si on compte les deux parties, mais c'est vrai que c'est un sujet que j'avais envie de penser de façon un petit peu détaillée, parce qu'en plus je trouve que cliniquement c'est un sujet que je pense beaucoup. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, à me dire ce que vous en avez pensé, comment vous voyez les choses. Et puis on se retrouve aussi bientôt. Je vous laisse ma page Patreon dans les avis, ça m'aiderait beaucoup d'avoir votre soutien. Je suis pas très à l'aise à tout le temps en parler, mais bon, je vais essayer d'y penser à chaque fois un petit peu, au moins un épisode sur deux. Donc merci à tous pour vos écoutes, vos soutiens, et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut !Thank you.